Bonjour mes frères et sœurs, ce soir on va étudier quelque chose d'un petit peu, disons, un peu plus compliqué que d'habitude. Je vous invite dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ô Jésus, je te prie de bénir ces paroles et que chacun se prenne et réalise combien elles sont importantes à tes yeux. Merci Jésus. Amen. Si notre évangile, qui est l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est notre sauveur, qui est notre maître, et qui est l'image de Dieu. Ah! Mes frères et sœurs, nous avons été créés à l'image de Dieu. Bon, cette image a été abîmée par le péché, mais maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et nous sommes en train de réapprendre à nous manifester tel que nous devons le faire, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire de retrouver notre image, c'est-à-dire ce que les gens voient, parce que Dieu nous voit purs déjà, mais les gens. Je voudrais tout de suite commencer en vous disant, vous n'êtes pas un figurant dans l'histoire, dans la vie des autres. Vous évoluez et vous créez en permanence dans l'inconnu, c'est vrai. Et les gens croient vous connaître. Mais en réalité, en vérité, il n'y a que Dieu qui vous connaisse vraiment. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens pensent de vous. On voit beaucoup de gens devenir terriblement dur, méchant, harceleur même sur le net. Je peux me dire des choses invraisemblables que je n'oserais pas vous dire en pleine figure la plupart du temps, mais derrière un écran, sur un clavier. Alors ils vous disent des choses, ne faites pas attention. Et puis même pour les gens de votre famille, vos amis et vos amis, quand je dis vos amis, c'est-à-dire ceux qui se, voilà, ceux qui tournent autour de vous et qui se... Ne faites pas attention à ce qu'ils pensent de vous. Je vous ai toujours enseigné que nos pensées sont créatrices, c'est vrai. Mais ça signifie aussi que les pensées des autres sont créatrices. Et si vous donnez de l'importance à ce que les autres pensent de vous, ben leurs pensées vont aller, elles vont coller à votre peau. Elles vont freiner votre évolution. Chacun de nous à des pensées contradictoires. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Mais seules les pensées les plus fortes, heureusement, les plus entretenues, se manifestent dans le monde. Mais alors donc, faites attention, ne laissez pas des mauvaises pensées vous coller à la peau, qu'elles soient les vôtres ou celles des autres. En tant que papa, et puis maintenant en tant que grand-père, j'ai dû apprendre quelque chose d'important. Ma fille, Mélodie, est un adulte. Elle n'est plus l'enfant que j'ai connu. En tant que parent, on doit accepter ce changement. Sinon, on aura toute notre vie une relation qui est faussée. Or, avec nos enfants, qui sont devenus adultes, nous devons avoir une relation adulte-adulte. Ouais, c'est sûr que des fois j'ai dit mon gros bébé, mais ouais, c'est juste une phrase. Mais nous devons faire attention. Papa ou maman, c'est seulement un rôle. C'est une fonction d'éducation définie dans le temps. Et vous savez, je pense à ces choses en ce moment parce que je suis en train de réécrire ma biographie. La première édition, qui s'appelait Le Veilleur, comprenait 174 pages. Et puis j'en ai fait une deuxième édition, 511 pages. Et celle que j'écris en ce moment, elle en a pour le moment, c'est pas fini, 976 pages. J'ai pas fini. Alors je me disais, je me rappelle la première fois quand j'ai écrit, je me suis dit, ça m'a intéressé personne. Maintenant je pense plus comme ça. J'ai vu que ça a un impact. Mais en écrivant, je disais, je ne peux pas laisser croire que je ne suis que ce que j'ai écrit en 174 pages ou en 511 pages. Si je me présente, les gens qui vont lire auront une idée figée de ce qu'ils vont lire. Est-ce que je dois effacer mon histoire personnelle pour être libéré des pensées encombrantes des gens? Parce que les pensées des gens sont créatrices, elles peuvent fausser les relations que j'ai avec eux. Alors, soit je dis rien, soit je dis tout. Mais dire tout, c'est se dévoiler, c'est se mettre en danger. Est-ce que c'est bien utile? Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes les soldats du roi des rois. Or, un soldat ne se met jamais à découvert, il ne se dévoile pas devant l'ennemi, vous êtes d'accord? Bien sûr. Est-ce que vous devez vous mettre à découvert devant vos ennemis? En fait, tout dépend de ce que vous appelez des ennemis. Un être humain normal, un croyant, je veux dire, peut avoir des ennemis humains. Voilà, j'aime pas un tel, j'aime pas un tel, etc. Mais nous savons que nous n'avons pas d'ennemis humains. Nos ennemis sont les esprits qui animent certains humains, qui sont faibles. Et qui nous attaquent, qui nous font du mal, qui nous font du tort, qui, voilà, bon. Nos ennemis spirituels, les autorités spirituelles, c'est ça nos véritables ennemis. Par contre, les humains, bon, comme je vous ai dit, sont faibles, soit ils sont, une faiblesse quelque part. Ceux que nous croyons être nos ennemis humains, en fait, ce sont des faibles. Manipulés. Ils changent. Chaque fois que vous les rencontrez, eh bien, vous avez le pouvoir de leur donner une image de vous. Une image de vous qu'ils ne connaissent peut-être pas encore. Quelle image les gens ont-ils de vous quand ils pensent à vous? Gentil, dangereux, sexy, cultivé, riche, pauvre, moche, beau, enfin bref. Faites ce qu'il faut pour avoir l'étiquette du rôle que vous voulez jouer sur votre chemin. Et n'oubliez pas, vous êtes un soldat de Jésus. Quelle image donnait-il de lui-même? Ben, lisez un peu dans la Bible et vous allez voir ce que les gens disaient de lui, et vous le saurez. Ce que les gens disaient de lui, c'est l'image qu'il recevait de lui. Comment se fait-il que certaines personnes pensaient que Jésus était du diable? Parce que Jésus restait vague quant à sa vie. Et les gens, la majorité, pensaient, on ne sait pas quoi penser de lui. Il est étrange. C'était important parce que s'il avait dit clairement à tous, ta-ta-ta, ça y est, c'est moi que je suis le Fils de Dieu. Je vais mourir sur la croix pour offrir ma vie en sacrifice pour l'humanité. Les démons qui habitaient les gens auraient tout fait pour empêcher ce sacrifice. Or, les gens, à part ses disciples, ne savaient rien de tout ça. Il leur disait pas qu'il allait mourir sur la croix, qu'il était venu, qu'il était l'agneau de Dieu. Oui, c'est vrai, voilà, Jean-Baptiste l'avait dit, mais vous avez oublié. C'est tout au début. C'est pourquoi Jésus a dit au sujet de ces bourreaux humains, « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. » Il n'y a que le diable qui, au dernier moment, s'est rendu compte de son erreur. C'est pourquoi il a cherché à tuer Jésus dans le jardin de Gethsémané. Mais c'était trop tard, le processus était lancé et bien trop avancé. Vous voyez, vous n'êtes pas un figurant dans l'histoire des autres. C'est vous qui évoluez et créez en permanence votre histoire, celle que Dieu veut que vous jouiez ici-bas. Restez donc concentré sur la volonté de Dieu, sur ce que Dieu veut pour vous, sur la volonté de Dieu à votre égard. Restez concentré, ne partagez qu'avec ceux qui vous aiment. Et encore, Jésus, à la fin de sa vie, on apprend qu'il avait 120 disciples, hein, ceux qui étaient dans la chambre haute. Mais il n'a partagé l'essentiel qu'avec 3 d'entre eux, à l'écart, sur la montagne de Transfiguration. Vous voyez, ce que Jésus faisait est un modèle pour nous. Il oscillait sans cesse entre sa capacité de concentration et sa capacité d'ouverture. Je parlais avec un ami qui est dans le business et qui me disait, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas que je parle trop de mes projets, de ce que je fais, parce que ça les fait capoter. Ah. C'est ça la semaine passée. Jésus, lui, il oscillait sans cesse entre sa capacité de concentration et sa capacité d'ouverture. J'explique. Il avait de longs moments intérieurs, silencieux, paisibles, à l'écart, où il était en état de réceptivité. Il parlait avec le Père, il priait. Et il était publiquement dans l'action, il s'extériorisait, parlant aux gens, guérissant les malades, délivrant les possédés. En fait, il était totalement engagé dans ce qu'il faisait. Et il maîtrisait ses émotions négatives. Parce que il était humain. Et il avait des émotions négatives. Mais il les maîtrisait. Il manifestait ses émotions supérieures. Vous savez, toutes vos émotions négatives non maîtrisées détruisent votre pouvoir intérieur, votre pureté. Elles sont absolument inutiles dans votre vie. Ou alors, il vous faut les manifester de façon maîtrisée. Comme Jésus, par exemple, quand il s'est mis en colère dans le temple. Écoutez bien. Cette manifestation, elle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des pharisiens. Vous lirez ça dans, je crois que c'est Luc 19, 45-48 par l'autour, où c'est écrit que juste après qu'il soit mis en colère, les pharisiens ont décidé, bon, on va le faire périr, mais bon, ils étaient un peu embêtés parce que tout le monde l'aimait bien, enfin, ils ont quand même pris cette décision, bon, il faut qu'on s'en débarrasse. Il va trop loin. C'était spectaculaire, cette colère, dans le temple, pensez. Quand je dis que Jésus maîtrisait ses émotions dans le temple, dans sa colère, je veux dire qu'il s'est rendu maître des émotions des pharisiens. En exprimant une émotion négative qui les a tellement choqués qu'ils résolurent de le faire périr. Est-ce que vous voyez? Il a fait ça dans un but. Ce n'était pas juste le but de se mettre en colère et puis de chasser les marchands de colombes, de veaux, de vaches et de cochons. Vous voyez, vous n'êtes pas un figurant dans l'histoire des autres si vous avez Jésus comme modèle. En fait, nous ne devons pas exprimer ce qui donne de nous une mauvaise image. Alors que faire? Eh bien, on doit apprendre à dissoudre nos émotions négatives seules devant la croix et récupérer la totalité de cette énergie émotionnelle, parce que les émotions négatives, c'est une énergie émotionnelle. On doit la récupérer, on doit récupérer la totalité de cette énergie émotionnelle pour notre propre épanouissement et pour l'épanouissement de ceux qui nous entourent. Observez que la seule fois où Jésus s'est mis en colère, c'était dans le but de donner aux démons religieux une bonne raison de le mettre en croix. Et, d'ainsi, participer, à leur insu, au salut du monde. En fait, il les a manipulés. La maîtrise de ses émotions dans le temple, c'était de la manipulation contre les démons. Quelle sagesse, quelle maîtrise. Jésus est le maître de tout. Et nous devons apprendre de lui. Nous devons être conscients d'une chose, et cela, on ne nous en parle pas dans les écoles, on ne nous en parle pas à l'église. Il n'y a que la vie qui est éternelle. Ce monde, depuis la chute, il est voué à la destruction. Et il est en train de se dissiper dans la destruction. Il n'y a que la vie qui est éternelle dans ce monde depuis la chute. Depuis la chute, tout est soumis à une loi, celle de l'entropie. Alors c'est un petit peu compliqué à vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'entropie, mais je pense que vous avez un dictionnaire, vous allez fouiller et vous allez voir ce que c'est que l'entropie. Je vais vous donner juste quelques petits indices afin que vous compreniez quelque chose. En résumé, tout est soumis à la mesure du désordre. Oula, l'entropie c'est ça. Je vous donne un exemple. Quand vous faites chauffer une tasse de café, eh bien, vous concentrez l'énergie thermique, la chaleur, dans une tasse. D'accord ? Mais si vous laissez la tasse une heure sur la table, eh bien, la chaleur va se dissiper. La chaleur va se dissiper et vous pouvez toujours attendre pendant des siècles, l'univers ne réchauffera pas votre tasse de café. C'est un coup de l'entropie. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un univers anthropique. Ça, on ne nous le dit pas. Hein. En général, on ne nous le dit pas. Mais pourtant, ça fait par loi. C'est une des lois. C'est une loi physique. C'est la loi physique qui crée le désordre. Pas l'ordre. Et c'est ce qui fait cette loi-là. Quand elle est observée par les savants, ça leur fait voir qu'ils sont devant un mur d'incompréhension. Parce qu'ils disent qu'il n'y a que la vie qui est le seul mystère scientifique, parce qu'ils sont bien obligés de constater qu'elle existe. Il n'y a que la vie qui laisse une porte ouverte à l'intervention d'un créateur. Parce que autrement, tout marche sans Dieu. C'est pourquoi il y a des incroyants savants. Parce que tout fonctionne même sans être vivant ici-bas. Dieu a créé des forces, par exemple la force magnétique. Cette force n'est pas la vie, cependant elle a quand même des pouvoirs, c'est quand même spectaculaire. La gravité c'est une force, mais la gravité c'est pas la vie. La gravité n'est pas la seule forme d'ordre créé par Dieu, il y en a plein. Mais toutes ces forces, qu'est-ce qu'elles font? Elles dissipent l'énergie. Il faut que vous y pensiez. Quand l'univers trouve des zones d'énergie concentrées, hop, il les dissipe. Les exemples sont partout, partout. Prenez les orages, on a eu, enfin pas nous, nous on est dans le sud-ouest, mais pas loin de chez nous, dans le sud-est, il y a eu des orages terribles ces derniers jours. Lorsque les nuages d'orage se chargent d'électricité statique, il y a des éclairs qui se forment, Dieu a inventé ce système, ce mécanisme de dissipation, la foudre décharge l'énergie des nuages dans le sol. Je vais plus loin. Le soleil dissipe son énergie, les plantes captent cette énergie, nous mangeons les plantes. La vie est un outil qui puise dans la dissipation de l'énergie. Regardez, vous mangez ces fameuses plantes qui ont mangé l'énergie du soleil, qui était dissipée, et vous convertissez votre nourriture en énergie, en chaleur, etc., etc. Pensez-y. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ne pas disperser notre énergie sans sagesse, sans intelligence. Notre énergie peut devenir une bombe destructrice ou un bienfaiteur. Qu'est-ce que vous voulez être ? Ne vous occupez pas de ce que les gens pensent de vous. Intéressez-vous à ce que Dieu pense de vous. Chargez-vous de cette énergie créatrice de la pensée de Dieu, de l'énergie créatrice de la pensée de Dieu, de la pensée exprimée dans sa parole. Nourrissez-vous, c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut se nourrir de la parole, parce que quand on se nourrit de la parole, on se nourrit d'énergie que nous allons nous-mêmes manifester. Allez chercher cette énergie dans la prière, dans la lecture des Saintes Écritures, dans la méditation et manifestez-la pour le bien des prédestinés au salut et pour la perdition des prédestinés à la perdition. C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Mais sans jugement, vous n'avez pas à juger. Simplement, vous prenez l'énergie qui est dissipée par l'univers que Dieu a créé, elle se transforme en énergie en vous que vous dispersez. Attendez, je vous relis le texte. Vous allez tout de suite comprendre mieux la prédication que je viens de vous donner. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, vous n'y pouvez rien. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Mes frères et sœurs, à l'image de Jésus-Christ, qui était l'image de Dieu sur la terre, lui, il se moquait complètement de ce que les gens pensaient de lui. Mais il allait se recharger auprès de son Père pour pouvoir ensuite dissiper toute cette énergie pour le bien de ceux qui sont à Dieu. Et les autres voyaient et entendaient les mêmes choses et ça concourait à leur mal. Tout est une question de nature. Si vous êtes un enfant de Dieu, faites ce que je vous dis et vous verrez votre vie, votre ministère prendre une tournure tout à fait extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus pour cette prédication un peu spéciale, enfin plus souvent spéciale. Je te prie que tu bénisses mes frères et sœurs qui ont écouté ça avec intelligence. Merci mon Dieu. Amen. Au revoir.